Bonjour à tous, voici l'Esprit Public sur la scène de l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville, qui nous accueille toujours en ces temps troublés. Nous sommes en direct, comme chaque dimanche, pour vous éclairer sur l'actualité politique et géopolitique de la semaine avec nos visiteurs du jour, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, l'économiste Daniel Cohen et le professeur de Relations internationales Bertrand Badi. Au sommaire de nos échanges, une pandémie hors de contrôle aux États-Unis, en Grande-Bretagne, l'échec du libéralisme sanitaire, avec quelle empreinte sur nos modèles politiques à venir? Et puis djihadisme au Sahel, mais aussi Covid, vaccins et économie, pendant ce temps-là en Afrique. Mercredi prochain, Joe Biden va donc prendre enfin les rênes du pays le plus touché au monde par le maudit virus, sans que l'on sache où s'arrêteront ces funestes records quotidiens de contamination et de morts. Plus de 388 000 morts aux États-Unis et 23 millions de personnes infectées en cette mi-janvier, selon l'université Johns Hopkins. Quant aux campagnes de vaccination, elles ne semblent pas encore au point. Échec patent du libéralisme sanitaire, forme de laisser-aller revendiquée par Donald Trump pendant des mois. Chez le cousin britannique, on ne peut oublier les images montrant là encore une situation épidémique inquiétante avec le fort potentiel contagieux du fameux variant et une pression particulière sur Londres, saturation des hôpitaux et pénurie de soignants avec des chiffres édifiants, une personne sur 20 contaminée dans certains quartiers. Constat d'échec pour Boris Johnson qui faisait il y a un peu moins d'un an, en mars 2020, le pari risqué de l'immunité collective pour ne pas pénaliser l'économie britannique, à l'opposé des doctrines de confinement radicaux décrétées d'abord par la Chine, puis par l'Italie et par la France. Quant à l'Allemagne qui avait tenté naguère un entre-deux, la voici désormais contrainte d'adopter toute cette panoplie de restrictions de liberté que nous avons connues dans l'Hexagone en mars dernier, réfléchissant même cette semaine à arrêter sa production industrielle, constatant que même avec des écoles, des lycées, des magasins non essentiels, des bars, des restaurants fermés, une limitation kilométrique des déplacements, le nombre de décès continue de s'envoler. 16 000 morts en décembre, soit autant en un mois que de mars à novembre inclus. Le Covid ou l'histoire de ce virus qui pousse les dirigeants les plus libéraux à renouer avec l'interventionnisme étatique, une certaine forme de dirigisme avec notamment la planification, des aides économiques et sociales, des campagnes de vaccination, une certaine forme de centralisme et d'autoritarisme plus ou moins prononcée, nous invitant à réfléchir à ce que ces gouvernances de crise laisseront ensuite comme trace, indélébile ou non, dans le monde d'après, pour le meilleur et pour le pire.
Si vous n'êtes pas choqué par le nombre de personnes hospitalisées sérieusement malades en ce moment et qui meurent à cause de cette pandémie, c'est que vous n'avez pas compris ceci. La situation est épouvantable et le nouveau variant l'aggrave alors qu'elle était déjà très mauvaise. Les prochaines semaines vont être les pires semaines de toute la période pandémique pour notre système de santé. Il est très important que nous vaccinions un maximum de personnes pour cette période extrêmement dangereuse qu'est l'hiver.
Voilà, des médecins anglais qu'on entendait à l'instant dépassés par la violence de cette deuxième vague, tandis qu'en France, par comparaison, on s'estimerait presque heureux de ne subir qu'un couvre-feu à 18h. Daniel Cohen, est-ce qu'au fond, cette deuxième vague, c'est la condamnation définitive ou l'heure de vérité pour ce qu'on pourrait appeler le libéralisme sanitaire ?
Oui, sans doute, sauf que moi, je ne l'appellerai pas comme ça. Je ne dirais pas que c'est le libéralisme sanitaire qui a perdu. Je dirais plutôt que c'est le populisme sanitaire qui a perdu. C'est-à-dire que quand on voit le dénominateur commun des pays qui ont été très loin dans le déni de cette maladie et qui ont voulu mettre en avant l'économie, bon, la liberté individuelle, si on veut le dire comme ça, mais surtout dans cet arbitrage difficile que tous les gouvernements ont dû faire entre économie et santé, on voit que Trump, Boris Johnson, Bolsonaro ont tous fait le choix de l'économie contre la santé. Au fond, ce qui était en jeu, c'était dans cet arbitrage délicat d'être résolument, idéologiquement, aveuglement, d'une certaine manière, du côté de l'économie. Et donc ça, c'est très important, parce que si au fond le populisme choisit, enfin, entre guillemets, pour aller vite, hein, pour résumer ces trois termes que sont le Trumpisme, le Brexitien Johnson et Bolsonaro, qui sont évidemment très différents par ailleurs, mais si on devait les résumer d'un terme qu'on va appeler populisme, qu'est-ce qu'il y a qui a fait que ils choisissent tous les trois l'économie sur la santé. Et je pense que c'est important parce que au fond, il y a deux interprétations possibles pour aller vite. Et une interprétation, au fond, on a envie de dire économisante de ce choix de l'économie, qui est que le rassemblement autour de Trump, par exemple, c'est des classes populaires et des classes dirigeantes. Il y a les deux extrêmes dans l'électorat de Trump. Et tous les deux ont intérêt à l'économie. Les classes populaires, parce qu'elles n'ont pas les moyens, en quelque sorte, de différer à plus tard les exigences de très court terme. Et puis, les classes dirigeantes qui, elles, mettent l'économie devant. Donc, on aurait une incarnation de ces deux extrêmes qui seraient favorables à l'économie contre la santé. Et puis, l'autre interprétation, mais pas du tout contradictoire, c'est une interprétation idéologique. C'est-à-dire que le refus de la santé vis-à-vis de l'économie est de même nature que le refus, par exemple, de la lutte contre le climat par rapport à la santé. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du déni. Quand on entend Trump en parler, c'était « vous allez voir, ça va passer, c'est comme le climat, ça va devenir très doux, vous allez voir ». Donc il y a quelque chose où on retrouve pour le coup les racines du populisme qui consiste à dire « le monde est comme je veux qu'il soit ».
Il y a un rapport au réel.
Il y a exactement. Et c'est le rapport au réel qui s'est fracassé. Et peut-être que la bonne nouvelle de ce point de vue-là de 2020, c'est qu'en effet, ce virus, comme disait Keynes à propos des monnaies, est plus têtu que les dirigeants les plus têtus eux-mêmes. Et donc, en effet, c'est un rapport au réel qui est changé. Une fois qu'on a dit tout ça, ne regardons pas ça trop à distance. Nous, en France, on a fait au premier semestre le choix de la santé. Ça a été le confinement général. Et puis, au fur et à mesure que le principe de réalité s'est imposé, pour nous, ça a été un chemin inverse. Et on a vu que progressivement, au cours de l'année, l'économie a constamment monté. Son rôle a été constamment rehaussé. Donc, ne jugeons pas de trop loin ce qui s'y est passé, mais je pense que c'est donc pas le terme de libéralisme sanitaire qui serait vraiment en tête, qu'il faudrait avoir en tête pour comprendre ce qui s'est passé, mais bien plus cette interprétation du populisme qu'il faut refaire à l'aune de cette question.
Alors,
du virus.
En effet, la question est plus complexe qu'elle n'y paraît, Sylvie Kaufmann, parce que l'on veut bien admettre facilement qu'avec l'échec des politiques sanitaires menées aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est l'échec d'un populisme sanitaire. Mais si l'on prend le cas de l'Allemagne, évidemment, les données du débat sont complètement différentes.
Oui, enfin, si on prend chacun individuel, on peut trouver des arguments pour et contre. C'est ça aussi
qui
est extraordinaire.
C'est ça qui fait qu'on peut en débattre à l'infini.
Absolument, dans ce virus qui nous occupe quand même depuis pratiquement un an maintenant. L'Allemagne, elle montre aussi que, à un moment, vous savez, on avait ce débat, est-ce que c'est mieux d'avoir un État centralisé ou un État fédéral? Et on trouvait aussi que, comme nous, on est un État très centralisé et qu'on trouve toujours que tout va très mal chez nous, on trouvait que l'État fédéral, c'était une bien meilleure structure, parce que c'est vrai que dans la première vague en Allemagne, on a pu voir une certaine souplesse grâce à cette autonomie des Länder, ce dialogue que Angela Merkel pouvait avoir avec les ministres présidents des Länder, etc. Là, ça joue dans le sens inverse, c'est-à-dire que dans cette détérioration de la situation sanitaire en Allemagne, on voit que Angela Merkel a essayé de convaincre les ministres présidents des Länder qu'il fallait renforcer les restrictions, qu'il fallait être beaucoup plus rigide, qu'il fallait, comme vous avez cité ces exemples, être beaucoup plus dur. Et eux ont résisté, en réalité. Il semble bien que, finalement, c'est ça qui ait aggravé la situation en Allemagne. Sur le reste, je voulais faire un autre constat, qui est peut-être fortuit, je ne sais pas, c'est que si on regarde les trois pays qui ont le plus vacciné de gens pour l'instant, donc qui sont allés plus loin dans la vaccination, ce que nous considérons tous comme la clé finalement du salut, ce sont aussi les trois pays dont les dirigeants, qu'on peut qualifier de populistes d'une certaine manière, ont le plus mal géré la crise sanitaire, c'est-à-dire Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? En effet, ils ont, je suis d'accord, ils ont tout c'était à un moment donné dans cette sorte de déni sur les effets et les effets, les désastres possibles que pouvait causer la pandémie. Mais ils ont finalement misé sur le vaccin. Donc ils n'ont pas cru en l'humain, ils n'ont pas cru dans les instruments que nous on utilisait, c'est-à-dire le confinement, faire confiance aux gens, inspirer la confiance pour qu'ils respectent ces mesures barrières, etc., etc. Mais ils ont énormément investi sur le vaccin. Et je dois dire que, avec tous les défauts qu'on a trouvé à juste titre avec Donald Trump, il y a une chose qu'il a faite, qu'il a réussi, enfin il n'est pas seul, le Congrès y a beaucoup participé aussi, c'est cette opération Warp Speed, ça veut dire vitesse de l'éclair, et c'est remarquable parce que c'est une opération qui est un partenariat public-privé, avec qui implique du côté public le département fédéral de la santé, le département de la défense, un organisme qui s'appelle le BARDA, qui n'a rien à voir avec notre BARDA français, mais qui est un acronyme très savant sur Biomedical Advanced Research and Development Authority, c'est un organisme donc biomédical d'État fédéral, et qui a investi des sommes absolument énormes d'argent public, des milliards, je crois que le budget total était de 10 milliards de dollars, dans les entreprises, dans les laboratoires pharmaceutiques privés qui étaient lancés dans la recherche et le développement des vaccins, et qui n'auraient pas, avec leurs seules ressources privées et leur recherche du profit, qui est la raison d'être, enfin une des, ou disons un des paramètres fondamentaux de ces entreprises privées, n'auraient pas pu se permettre d'aller aussi vite dans le développement, dans la recherche et le développement et la fabrication des vaccins. C'est-à-dire que l'État fédéral américain investissait à fond perdu et a permis, à part des subventions dans ces laboratoires, et leur a permis d'accélérer sans brûler les étapes pour autant, mais de mener toutes les étapes de la recherche, du développement et de la production parallèlement au lieu de les mener de manière successive. Ce qui a fait gagner des années, et c'est grâce à ça, en grande partie, qu'on a aujourd'hui ces vaccins. L'Union européenne y est venue aussi, mais tardivement, à ce même genre de technique.
La campagne de vaccination en Israël se déroule de façon beaucoup plus efficace qu'aux États-Unis.
Alors voilà, en Israël, il y a aussi des spécificités, mais ce que je veux dire, c'est juste par rapport à votre idée du libéralisme sanitaire. C'est vrai que là, on est le libéralisme sanitaire de Trump, il avait quand même des limites, quoi. Voilà.
Alors si je résume, Daniel Cohen nous a excellemment bien défini ce que pouvait être un populisme sanitaire et la prise de conscience de ce que signifie aussi ce rapport au réel ou ce déni de réalité. Sylvie complexifie un peu le débat en nous expliquant que ces leaders populistes ont pu être mauvais dans la gestion quotidienne de la pandémie, mais n'ont pas été mauvais dans la stratégie d'investissement dans la recherche médicale. Et ça rejoint une grille de lecture qui est la vôtre, Bertrand Badie. Mais vous regardez l'épidémie d'un point de vue mondial et vous allez surtout regarder vers le continent asiatique, je crois.
Oui, alors je crois que Daniel Cohen a bien posé le dilemme, s'agit-il de populisme ou s'agit-il de libéralisme ? Hein, c'est une question extrêmement intéressante, à condition que l'on ne recherche pas délibérément des corrélations qui seraient probantes. C'est-à-dire que ça fait maintenant un bon bout de temps qu'on s'aperçoit que aucun type de régime n'a franchement réussi par rapport à un autre. Et si on fait une typologie en termes de régime, autoritarisme, démocratie, populisme, libéralisme, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas de résultat clair. Et puis en plus, la réalité est en évolution. Ça change tout le temps. J'aurais tendance à dire, moi, les deux, mon général. C'est-à-dire et libéralisme et populisme. C'est-à-dire que le populisme se caractérise, faut quand même pas l'oublier, par une défiance à l'égard des institutions. Et ça, c'est quelque chose qui court un peu partout, quel que soit le régime, quel que soit le continent, quel que soit le type de société. On ne croit plus, et les enquêtes par sondage sont là pour le montrer, on ne croit plus dans les institutions. Et dès lors, effectivement, les leaders populistes ont eu cette tentation de dire, on oublie les institutions, et puis on fait comme si, de, etc., etc., et ça a été un échec. Côté libéralisme, je pense qu'il y a un autre grief sur lequel il faudra travailler, c'est-à-dire 40 ans, je ne sais pas, Daniel me corrigera ou précisera, de libéralisme ont contribué à complètement dissoudre le social. C'est-à-dire que il n'y a plus de casse sociale. On passe directement de l'économie à l'individu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas vu venir ce péril sanitaire. Et d'une façon générale, que l'on a marginalisé les questions de sécurité humaine, environnementale, sanitaire, alimentaire, etc. Là, il y a un véritable problème sur lequel il faudra s'interroger lorsqu'on sera sorti, espérons-le, de tout cela. Mais je voudrais ajouter peut-être effectivement un troisième élément, parce qu'on a toujours l'habitude de regarder son nombril, hein, quand on fait de l'analyse politique ou sociologique, c'est-à-dire de regarder l'Europe, les États-Unis, alors l'Afrique, on en reparlera tout à l'heure, on la regarde pas, et l'Asie, anecdotiquement, à 20h29 dans le journal télévisé. L'Asie quand même nous apprend quelque chose. C'est la seule corrélation que j'ai pu trouver, me semble-t-il, je vais peut-être être démenti la semaine prochaine, mais qui implique réflexion et qui implique modestie de la part notamment des Européens et des Nord-Américains. C'est que les pays qui sont les mieux classés en termes de part de dépenses consacrées à la recherche sont ceux qui s'en tirent le mieux, c'est-à-dire le budget de la recherche pour lauréat, Singapour, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, bien plus loin et premier arrivé en Europe, l'Allemagne. Et ces pays-là, effectivement, ont su faire face. Alors, il y a quantité d'autres facteurs qui viennent interférer, parce qu'en sciences sociales, il n'y a jamais une cause. Il y a une imbrication de facteurs. Mais ça demande réflexion à un moment où nous assistons vraiment très tristement à la faillite de la recherche française en matière vaccinale. D'ailleurs, où on nous annonce, ah ben, dans 12 mois, il y aura un vaccin français. Bon. Et on est le pays de l'Institut Pasteur. Ça fait mal. Et effectivement, la lecture que les régimes de droite ou de gauche qui se sont succédés ont donné de la recherche, et le peu de prise que la recherche a tant sur l'économie privée, faut pas oublier qu'à qu'en Corée du Sud, 78% de la dépense en matière de recherche vient du privé, que en matière d'insertion de la recherche dans les politiques publiques, nous amène à penser que les vrais fautifs, pire encore que les populistes, pire encore que les libéraux, pire encore que les nationalistes, les vrais responsables, c'est ceux qui ont considéré que la recherche n'était pas rentable.
Est-ce que cela signifie que dans le monde d'après, Hubert Védrine, même si je crois que vous détestez cette terminologie-là, on assistera de toute façon, parce qu'on aura fait ce procès du libéralisme sanitaire, au retour de l'État fort, avec tout ce que cela implique, l'investissement stratégique dans la recherche, comme le disaient Sylvie et Bertrand Badi à l'instant, mais aussi avec toutes les dérives que cela peut entraîner dans certains régimes, avec ce qu'on peut appeler, pour aller vite, des contrôles sociaux plus importants, etc.
Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire, parce que je pense que tout ça est beaucoup plus compliqué, en fait.
Mais expliquez-nous cette complexité.
Je n'ai ni la prétention, ni le temps. Et c'est pas le cas.
Prenez le temps.
Je ne pense pas que ce soit du libéralisme, par exemple, ni du populisme. D'ailleurs, ces deux termes mériteraient des heures de discussion pour savoir de quoi on parle.
Comment vous définissez-vous Johnson et Trump dans leur gestion de la pandémie?
D'abord, on se précipite trop, c'est beaucoup trop tôt. On ne sait pas comment ça va tourner. C'est beaucoup trop tôt pour faire le bilan. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Bertrand Badi. Aucun régime, si c'est lié au régime, c'est lié aussi aux gens, au mode de vie, tout ça.
La gouvernance, disons.
Il n'y a pas que la gouvernance, il y a les gens aussi, les comportements. Il y a des gens, puisque Bertrand Badi parle de l'Asie, il a raison. Il y a des gens qui ont collectivement des comportements différents. C'est apparemment en Europe qu'on a le plus de mal à articuler le mode de vie, la liberté, l'individualisme et puis les disciplines vitales collectives. Mais on le sait, on le savait avant, ça. Donc je trouve que c'est beaucoup trop tôt. C'est pas trop tôt pour en parler, pour échanger, mais c'est trop tôt pour tirer des conclusions utiles en disant voilà comment on va s'organiser dans le monde entier, dans l'OMS rénové par rapport aux pandémies de l'avenir. Bon, c'est trop tôt pour ça. Aucun régime ne s'en sort magnifiquement. D'autre part, regardez le camp de la... C'est vrai, de loin, il y a un camp de l'économie, camp de la santé, mais dans le camp de l'économie, il y a toute la jeunesse. Toute la jeunesse qui dénonce sans arrêt les entreprises, le capitalisme, etc. Bon, ils sont du côté festif. Je fais que ce que je veux. Vous voyez, ils rejoignent les arguments économiques les plus cyniques. Le monde de la culture est entièrement de ce côté. Donc c'est pas si clair. Enfin, vous voyez. Donc je trouve que Les grilles employées sont toutes intéressantes, mais elles sont toutes un peu trop prématurées pour être amenées à des conclusions. Puis le libéralisme, on pourrait rappeler que dans le vrai libéralisme, il y a des règles. Ça ne fonctionne qu'avec des règles. Des règles. Des règles de droit, des règles de ceci, cela. Donc on est dans un tel méli-mélo qu'on n'a pas fini l'affaire, on ne connaît pas le rythme exact de la vaccination, on ne sait pas si la vaccination va répondre, faut l'espérer, aux mutations envisagées. D'ailleurs, dès le début, les virologues disent que c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il n'y a pas des vaccins dans le passé déjà extrêmement efficaces par rapport au virus déjà connu, parce qu'ils mutent tout le temps, voyez. Donc voilà, je trouve que c'est un point d'étape et qu'il faudra rebondir sur ces sujets plus tard.
Il y a eu malgré tout, c'était vraiment intéressant à lire ces derniers jours dans La Croix, je crois, de German Rosa, Daniel Cohen, qui expliquait que de cette crise sanitaire émergeraient de toute façon des tendances politiques autoritaires. Alors ce qu'il appelle, lui, le retour du Léviathan, et lorsqu'il dit autoritaire, encore une fois, je pense qu'on peut y mettre un certain nombre de définitions. Dans ce retour, en tout cas, on va l'appeler de l'État fort, il dit qu'il y a le versant positif, ce que je disais tout à l'heure, en effet, de ce Léviathan sanitaire qui prend le visage d'un retour de l'État social ou de l'État-providence, et puis il y a ce Léviathan qui s'incarne davantage dans ces états d'urgence décrétés, dans ces contrôles sociaux plus importants, etc. Est-ce que, même s'il est vrai qu'il est toujours compliqué pour l'instant de tirer des conclusions définitives de ce que nous sommes encore en train de vivre, nous pouvons déjà deviner quels seront ces modèles étatiques qui vont prédominer dans le monde d'après-Covid?
C'est évidemment par définition compliqué, mais je pense que le Covid, enfin comme toutes les grandes crises, est un accélérateur de tendance. Il ne fait pas naître des choses qui n'auraient pas existé. Alors c'est vrai qu'il en étouffe certaines et il en fait naître d'autres. Donc parmi les choses qu'il va accélérer, certainement l'Asie va sortir plus forte qu'elle n'est entrée dans cette crise, parce qu'elle a disposé de toutes sortes de choses qui lui ont permis de mieux gérer cette crise. Peut-être d'ailleurs tout simplement l'expérience de la précédente. On voit que tous les pays qui ont été au contact du SARS au début des années 2000 ont beaucoup mieux géré cette crise parce que ça les a marqués. Le Vietnam, par exemple, je crois, un ou deux morts seulement parce qu'ils ont été au front de cette crise. Alors Hubert a raison. On parle de la première année. Après, tout peut s'inverser, notamment parce que les vaccins peuvent complètement changer l'équation et ça peut...
Et puis si vous citez le Vietnam, parce qu'il y a cette culture du contrôle social aussi.
Voilà, et donc dans l'accélération...
C'est un des communistes au monde.
Oui, voilà, mais dans l'accélération dont je voulais parler, l'accélération de ce que j'appelle le capitalisme numérique en fait évidemment partie, qui contient en lui-même ce qu'une sociologue de Harvard appelait le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire, au fond, une certaine disposition qui permet aux GAFA dans un cas, aux partis communistes dans l'autre, d'avoir un contrôle très étroit de la vie des gens. Donc c'est vrai qu'on est dans cette accélération. Alors pour aller dans le sens d'Hubert, mettons pas trop vite de isme là-dessus, certainement il y a une accélération qui est en train de se produire de ce côté-là, où on voit que les instruments de contrôle, c'est la société de contrôle dont parlait Gilles Deleuze il y a très longtemps, qui est un terme qui convient mieux et qui l'opposait aux sociétés disciplinaires dont parlait Foucault. Je pense qu'il y a quelque chose de très subtil dans ce basculement d'un monde où on met les gens en caserne à un monde où on les surveille dans leur vie de tous les jours, et c'est manifestement ce qui est en train de se passer. Ayant dit tout ça, et pour revenir aux deux points de d'Hubert et de Sylvie, trop tôt pour parler de populisme, etc., on va voir quand même, avec le passage de Trump à Biden, un changement de politique dans tous ces domaines. Donc il va bien y avoir au sein de la société américaine une rupture très importante, une critique de la manière dont Trump a géré les choses, qui était en gros de ne pas le gérer. Alors Sylvie a raison de dire que, en effet, ces pays qui ont le plus mal géré, que moi je mets dans le camp des Trump et autres, mais peu importe, sont ceux qui ont le mieux géré, sont peut-être les mieux en train de gérer les vaccins. Alors on peut dire, oui, puisqu'ils ont très mal géré, les vaccins vont les sauver. Mais il y a peut-être autre chose, et qui nous amène au cœur de ce qu'on appelle ce populisme de droite, de Trump, etc. C'est que ce populisme-là, c'est un néolibéralisme, c'est un néo-réganisme. Trump est le continuateur de Reagan par d'autres moyens. C'est un mélange de libéralisme et de protectionnisme, donc d'une certaine manière c'est contradictoire, c'est quelque chose que Reagan n'aurait pas considéré, mais c'est quelque chose que j'appelle du libéralisme dans un seul pays. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui s'est forgée, néolibéral, baisse des impôts, dont Trump a été absolument l'expression, mais protectionniste, c'est les Chinois, c'est les Mexicains qui nous empêchent de vivre comme on est, donc c'est quelque chose de paradoxal. Et pour eux, comme c'est un néo-réganisme, oui, c'est vrai que l'économie apporte les solutions aux problèmes qu'elle a posés elle-même. Donc, je refais le parallélisme avec le climat. Ce groupe-là pense que les innovations vont nous sauver du réchauffement climatique. Et le vaccin, il l'attendait, Trump, en un certain sens. C'est un peu plus, donc, que je vais tout jouer sur le vaccin, ayant tout échoué auparavant. C'est parce que c'est cette philosophie qui est néolibérale du point de vue du rapport à l'économie et qui ne l'est pas du tout du point de vue du rapport à la mondialisation dans son ensemble, qui est l'originalité du Trumpisme. Et je pense que de ce point de vue-là, comme néo-réganisme dans un seul pays, le Trumpisme va survivre. Son protectionnisme, regardez en France, dans le rapprochement entre le Canadien et Carrefour, on n'hésite plus à dire, pas question, au revoir, il y a ce nouveau climat que le Trumpisme a créé et qui va demeurer. Et une autre chose qui va demeurer dans le Trumpisme, c'est ce refus, on va dire, de la contrainte budgétaire, c'est cette manière de jouer avec les déficits avant même la crise sans s'en soucier. Parce qu'il est, en effet, dans le déni des contraintes du long terme, je pense que ça va rester aussi. Donc il y a quelque chose de très profond qui s'est joué autour du Trumpisme et qui va donc survivre à tous les régimes possibles. Mais je reboucle sur ce que disait Hubert, on va voir avec l'élection de Biden ce que ça veut dire qu'un gouvernement qui se soucie de la santé. Ce sera très différent de ce qu'on a connu avec Trump.
On va voir en effet ces prochaines semaines ce qui va se passer avec l'élection de Joe Biden. Bertrand Badi, Daniel Cohen nous dit ce groupe-là croit dans l'innovation. Mais ne croyez pas, et ça on n'en a pas encore parlé, dans la nécessité d'institutions supranationales, ce qui est l'un de vos sujets clés, cette idée d'une gouvernance mondiale, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à la faveur de cette pandémie, et peut-être accélérée par en effet l'élection de Joe Biden, on va voir revenir cette croyance dans la nécessité d'institutions supranationales?
Alors d'abord... Il y a un apparentement entre le réganisme et le trumpisme, d'accord, mais je dirais, et ce n'est pas rien, que Trump, c'est Reagan moins la mondialisation. Et comme la mondialisation, c'était le socle du réganisme, il y a quand même un certain vertige. Alors, ceci étant dit, ça veut dire deux choses qui me permettent de répondre directement à votre question. Première remarque, tout ce qu'a fait Trump, mais aussi Bolsonaro et bien d'autres encore, c'est de nationaliser le virus. Ce mouvement, qui est un mouvement quasi général, je ne connais pas beaucoup d'États ou de princes qui aient réussi à s'écarter de cette tendance, a été désastreuse. C'est-à-dire que on a offert à l'opinion publique l'illusion que cette question, qui est une question globale, pourrait être résolue à l'échelle nationale. Alors, bien sûr, gouvernance mondiale, je m'apprête à le dire devant Hubert Védrine, parce que sinon il va sursauter, c'est pas gouvernement mondial, c'est pas du tout ça. Mais, en revanche, c'est inventer un nouvel ordre international dans lequel les enjeux seraient reconnus comme globaux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter ce réflexe politique et international qui consiste à dire « s'il m'arrive quelque chose, c'est parce qu'il y a un stratège malveillant derrière et un ennemi ». Et donc, tout le problème, c'est de savoir traiter un enjeu dans sa globalité et non dans sa nationalité. Et là, on n'a pas avancé d'un poil depuis un an.
Est-ce qu'en effet, Hubert Védrine, dans la matière, vous avez une vision du monde complètement différente de celle de Bertrand Badi sur ce point-là précisément? Est-ce qu'il faut regarder le monde du 21e siècle de façon différente?
Non, mais pas toujours. Hein. Il y a des tas de cas où il a raison. Par exemple, ce qu'il a, Bertrand Badi, a écrit et dit depuis des années, pour pas dire des décennies, sur l'humiliation, c'est un des ressorts évidents dans la chanson nationale.
Ça, c'est un autre sujet. Peut-être on en parlera d'ailleurs dans notre deuxième partie.
Non, mais j'échappe
sur
à votre piège.
Sur, ben non, n'y échappe pas. Sur ce point des institutions supranationales, parce qu'il est important. Qu'en pensez-vous, est-ce que vous partagez cette vision du monde?
Il a déjà répondu.
Est-ce que vous considérez qu'on entre et qu'on n'est plus que jamais dans une époque qui va nécessiter qu'on ait ces institutions supranationales, non, en tout cas sur certains aspects, sur certains dossiers?
Pas supranationales, il a pas, même Bertrand Badi dit pas ça.
Alors, expliquez-nous le Bertrand Badi.
D'ailleurs, M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, continue à dire que le monde est un chaos. Il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y a pas de système supranational. Les États-Unis sont absolument contre. Donc, dans le passage, si j'essaie de parler badien, vous voyez, de Trump à Biden, par exemple, Il n'y a pas du tout de supranationalité. Les démocrates vont dire, on revient dans des tas d'instances que Trump a eu bien raison bien tort de lâcher. Donc l'ONU, l'OMS, etc. Mais c'est pour exercer le leadership américain. Alors, donc on en revient à ce qu'il a déjà dit. En fait, on est d'accord. Il faut une coopération internationale de gouvernement capable de gouverner, d'être efficace, d'être crédible. Si vous voulez, au-delà des discours sur le multilatéralisme, qui sont des discours fumeux, en fait, si vous voulez convaincre que ça marche, il faut que ça marche.
Ouais. Est-ce que c'est fumeux, par exemple, que c'est fumeux, par exemple, prenons un exemple, dans le cas européen, c'est-à-dire que le fait que pour la première fois, les Européens ont été capables de s'entendre pour avoir une politique vaccinale européenne.
N'exagérons pas, vous voyez bien qu'il y a des différences énormes d'un pays à l'autre, il y a même des controverses même en Allemagne, même en Autriche, etc. Donc il ne faut pas tirer de leçons exagérées. Mais l'Europe, c'est une aventure complètement différente, puisqu'il y a une partie de transfert de souveraineté, il y a une partie de partage de souveraineté, il y a une partie de souveraineté qui est restée nationale. Le président Macron lui-même dit qu'il faut combiner les deux, la souveraineté nationale. Donc c'est un cas très particulier, et on ne peut pas généraliser sur le monde. Nos propos d'avant étaient plutôt sur le monde. Donc on a la même idée. Il faut évidemment une coopération internationale renforcée. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'OMS, avant même qu'on ait cet échange. L'OMS, une OMS renforcée, qui tire les leçons de ce qui sera passé jusqu'en 2021-22, je ne sais pas, pour que l'humanité tout entière soit mieux préparée pour la suite. Voilà. Mais il faut que là-dedans, il y a des gouvernements qui ne... Il ne s'agit pas de mettre en commun des impuissances, vous voyez. Des gouvernements qui ne peuvent que parler et qui ne peuvent rien faire chez eux pour des raisons d'effondrement de la puissance publique. Il faut rassembler des gouvernements capables. C'est très simple, en fait, si on oublie les ismes.
Alors justement, je sens que Sylvie a très envie de faire la synthèse entre le badinisme et le védrinisme.
Je ne sais pas si je n'aurais pas cette prétention. En fait. Mais non, je voudrais...
De la facilité de faire la synthèse.
Non, moi je voudrais revenir quand même sur l'Union européenne. Alors s'il y a quelque chose de supranational, je suis désolée, c'est quand même ça. Et cette pandémie a vraiment montré et a poussé, a provoqué une poussée intégrationniste sur l'Union européenne qu'on voit de manière très concrète, d'une part sur le plan économique, avec ce plan de relance énorme qui va être bientôt, souhaitons-le, distribué, mais en fait qui a été décidé, adopté, et tout le monde en a souligné le caractère historique. Et puis sur le plan santé, c'est-à-dire ces commandes groupées, cette mutualisation des commandes de vaccins qui d'ailleurs font polémique sur certains aspects, puisqu'on voit que l'Allemagne trouve que ça va pas assez vite, etc. Mais c'est aussi une avancée majeure dans la très étroite coopération entre gouvernements.
C'est une centrale d'achat.
Bah oui, mais c'est déjà pas mal, ça n'existait pas. Regardez sur les masques et les tests, on l'a pas fait.
Il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Hein.
Et moi, je pense que c'est un effet important de la pandémie, et un autre qui montre aussi cette progression de l'État. Alors, ça, on peut appeler ça Léviathan si on veut. On voit aussi cet effet aux États-Unis, ce plan qu'a annoncé Joe Biden de 1900 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, dans le calcul. C'est absolument énorme comme plan. Voilà. Et dernier effet, j'arrête là, c'est que sur l'innovation, on voit bien qu'il va y avoir une progression aussi de l'investissement public dans l'innovation, qui, je crois, aura un effet important dans les années à venir.
En guise de conclusion, Daniel Cohen, si on arrivait au moins à se mettre d'accord sur deux points du monde d'après, c'est le retour des États dans un certain nombre de secteurs stratégiques, et puis cette dose de supranationalisme, notamment, on a cité l'exemple européen, mais en effet, l'OMS et les Nations Unies, d'une certaine manière.
Oui, il y a un terme, le climat, c'est quand même très important. Et on voit ce qu'est un monde sans Trump. Il sort, Trump veut sortir des accords de Paris. Biden, je crois qu'il veut sincèrement en devenir un des acteurs principaux. Et le climat, c'est un point qui a permis à l'Europe, qui est peut-être en train de permettre à l'Europe de se réinventer. Et c'est pas juste une centrale d'achat, c'est très important. C'est une transformation en profondeur de notre politique énergétique, de la manière dont on conçoit le rapport à notre environnement général. On voit que c'est peut-être le leg
l'énergie,
positif.
C'est pas vrai du tout sur l'énergie.
Pardon. Attendez, juste un mot. C'est juste pour dire que c'est peut-être le leg positif de Trump, c'est-à-dire que sa détestation du climat a fait que partout en réaction, y compris en Chine, on a eu envie de prendre sérieusement cette question parce que son déni de la réalité dont on parlait tout à l'heure a été si loin qu'il en devenait absurde. Et on voit silencieusement un dénominateur commun traverser les différents espaces d'influence chinois, américain ou européen. Et ça, je trouve que c'est très important et je compte beaucoup sur Biden pour lancer cette dynamique que Trump a voulu briser et qu'il a peut-être paradoxalement accélérée.